Mon message d'aujourd'hui est tiré essentiellement d'un sermon que j'ai trouvé exceptionnellement enthousiasmant, qui a été présenté récemment par M. Peter Nathan. M. Nathan, c'est un ministre de l'Église de Dieu de très longue date, et actuellement, c'est lui qui est responsable non seulement de toute l'Europe, mais également de toute l'Afrique. Alors, c'est un homme de beaucoup d'expérience et de beaucoup de profondeur. Le titre du sermon aujourd'hui, Ancienne ou Nouvelle Alliance, laquelle vint en premier? Une question peut-être un peu surprenante. Et dans le sermon d'aujourd'hui, on va voir effectivement des choses étonnantes, mais en même temps enthousiasmantes pour répondre à cette question. Toujours en nous basant sur la Bible. Et pour y arriver, nous allons nous appuyer sur le sens véritable de certains mots des textes hébreux et grecs originaux. Alors, je vous donne essentiellement donc le contenu du message de M. Nathan. Dans le monde, un très grand nombre de chrétiens pensent, ou aiment à penser, que les 10 commandements font seulement partie de l'ancienne alliance, qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'occuper de ça, et qu'ils ne sont plus obligatoires sous la nouvelle alliance. Du moins, certains d'entre eux. Surtout, celui qui a trait à l'observance du sabbat hebdomadaire et bien sûr des fêtes. Or, on voit que les commandements existaient bien avant qu'ils ne soient mis sous forme de code par Dieu et qu'ils soient donnés par lui à Moïse sur le mont Sinaï. Les commandements existaient déjà avant ça. Les premiers humains connaissaient les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés par Dieu directement. Dieu leur a révélé les choses qu'ils avaient à comprendre. Et c'est pour cette raison qu'Abel est décrit dans la Bible comme étant le juste. On parle d'Abel le juste, ce qui implique qu'il pratiquait la justice de Dieu, donc ses lois. Abraham et son fils Isaac connaissaient aussi les commandements et ils les mettaient en pratique. Genèse 26, à partir du verset 3. On voit dans ce passage-là que Dieu dit à Isaac, le fils d'Abraham, « Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et regardez le verset 5. « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et parce qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Alors voyez-vous la preuve comme de quoi ces gens-là ont été enseignés par Dieu. Ils connaissaient les lois de Dieu avant même que les 10 commandements aient été écrits sur le mont Sinaï, sur des tables de pierre. Maintenant, je donne la perspective. On est ici aujourd'hui, vous et moi, et ceux qui observent le sabbat dans la petite église de Dieu à travers le monde, on est ici à cause d'un homme particulier, M. Herbert W. Armstrong. Et c'est bon qu'on fasse un peu l'historique. Un homme remarquable, de plusieurs façons, que Dieu a appelé, entre autres, à cause de ses antécédents et de la formation qu'il avait reçue. M. Armstrong a grandi en tant que Quaker. Pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose de la plus jeune génération. Ce groupe religieux est appelé la Société des Amis. La Société des Amis, vous allez voir pourquoi. Mais comme je vous mentionne, la plupart d'entre nous ne sommes pas familiers avec ce groupe religieux qu'on appelle les Quakers aux États-Unis. Disons simplement que ces gens étaient très différents des autres groupes religieux. Par exemple, ils ne se préoccupaient pas vraiment des dogmes et des doctrines. Ils se concentraient sur la piété personnelle, leur rapport avec Dieu, et sur l'importance de leur comportement, de leur attitude. C'est pour cette raison qu'au 18e siècle, lors de leur entrée en scène, ils ont été connus sous le nom de la Société des Amis, parce que c'était leur rapport avec les autres qui avait le plus d'importance à leurs yeux. Ils se concentraient, autrement dit, sur la qualité de leur rapport avec les autres. Comme M. Armstrong avait grandi dans cet environnement, il n'avait pas accumulé de bagages religieux venant des religions du monde, venant des catholiques, des presbytériens, des épiscopaliens et des autres mouvements religieux. Il n'avait pas été enseigner là-dedans. Donc, il n'y avait pas ça en arrière-pensée, si vous voulez, ou comme préjugé. Ça explique pourquoi M. Armstrong, au cours de son cheminement, a été facilement capable de remettre en question les idées religieuses qui existaient dans le monde autour de lui. Il pouvait les regarder avec un regard frais. C'est aussi pour cela qu'il a été capable de lire la parole de Dieu sans préjugés, avec des yeux neufs, pour ainsi dire, sans être influencé par les idées enseignées par les diverses dénominations religieuses du monde. Ça, ça donne le tableau. C'est comme ça que M. Armstrong a entrepris de mettre en question, de remettre en question les croyances des diverses églises autour. Bien sûr, au départ, il lui a fallu lui-même prouver les choses bibliques, pour lui-même et par lui-même, en étudiant intensément la Bible, ce qu'il a fait, ce qu'on voit dans sa biographie. Prouver l'existence de Dieu, prouver le sabbat, prouver ses fêtes, prouver son plan. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'est alors rendu compte que toutes les églises se trompaient et que les gens ne suivaient pas du tout ce que la Bible enseigne. De façon générale, ne suivaient pas du tout. Par exemple, en ce qui concerne le sabbat du septième jour de la semaine, celui que Dieu a décrété clairement dans la Bible. Dieu a aussi utilisé M. Armstrong pour remettre en question plusieurs autres croyances populaires au sujet de la Bible. Et là, M. Armstrong, à ce moment-là, s'est mis à écrire beaucoup. Et il a écrit, entre autres, plusieurs brochures qui commençaient souvent par l'expression suivante. « Que voulez-vous dire par? » J'ai encore des brochures, c'est moi, de ce type-là. « Que voulez-vous dire, par exemple, par salut? » Et là, il expliquait bibliquement ce que ça voulait dire. Que voulez-vous dire par prédestination? Que voulez-vous dire par conversion? Et là, il invitait les gens à vérifier par eux-mêmes, à partir de la Bible, ce que Dieu disait réellement sur ces sujets-là. Et moi, je me rappelle, on écoutait M. Armstrong et il nous disait, « Ne me croyez pas, mais vérifiez vous-même dans la Bible. Et si ce que je dis est écrit dans la Bible, ben là, vous avez des décisions à prendre. » C'est de cette façon-là qu'il faisait connaître le plan de Dieu. Alors, par le sermon d'aujourd'hui, je vais utiliser la même approche en posant la question. Que voulez-vous dire par ancienne et nouvelle alliance? Que voulez-vous dire par ancienne et nouvelle alliance? En parlant de ces deux parties de la Bible, nous disons Ancien Testament et Nouveau Testament. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de division dans la Bible. Les deux parties forment l'ensemble des Écritures. Monsieur Appartient nous le disait souvent. C'est un seul livre. Les Écritures se suivent, c'est un tout. Mais dans le langage courant, on parle d'Ancien et de Nouveau Testament. Or, quand on entend ces mots, quelle impression ça nous donne? Quelle impression ça vous donne quand vous entendez Ancien et Nouveau Testament? Premièrement, on a l'impression que l'Ancien est dépassé, périmé et obsolète, et que le Nouveau est par conséquent meilleur. Ça donne la première impression. Deuxième impression, on a l'impression que le Nouveau a remplacé l'Ancien. Toutefois, il faut souligner une chose très importante à considérer. Regardez bien. L'Église apostolique du tout début, fondée en l'an 31 de notre ère, a reçu la promesse de salut. Est-ce qu'elle avait le Nouveau Testament? Non, elle n'avait pas le Nouveau Testament. Il n'était pas écrit. Ce n'est qu'à la fin du premier siècle de notre ère que les 27 livres qui composent le Nouveau Testament ont été disponibles. Rappelez-vous que l'apôtre Jean, le dernier des apôtres originaux, a écrit le livre de l'Apocalypse vers l'an 90 de notre ère. Okay? Ça, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Allez dans 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. On va s'y reporter. 2 Timothée 3, verset 15. Ici, l'apôtre Paul parle à Timothée. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Alors, il dit à Timothée, « Tu connais ce qui est écrit. » Donc, ce n'était pas, le Nouveau Testament, c'était l'Ancien Testament. Alors, Paul dit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et après, verset 16, il dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, et ainsi de suite. » Donc, il dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Ici, il parle de l'Ancien Testament. Au cours de l'histoire, un certain nombre de personnes ont été appelées. Elles ont reçu le Saint-Esprit, ont vécu leur vie sont morts en ayant l'espérance de la résurrection, avant que le Nouveau Testament existe. Pensez aux prophètes de l'Ancien Testament. À ce moment-là, Dieu appelait simplement une personne à une époque, parfois deux à une autre. C'était très, très dispersé. Il y a très peu qui ont été appelés sous l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament n'existait pas. Regardez les héros de la Bible, Hébreux 11. Ceux qui sont mentionnés là ont existé avant que le Nouveau Testament existe. Abraham, Moïse et les autres. Quand les gens entendent le mot Nouveau Testament, ils le voient automatiquement comme étant le remplacement de l'Ancien Testament. Autrement dit, pourquoi parler de Nouveau Testament à ce moment-là? Ceci étant dit, revenons à présent aux deux alliances principales dont parle la Bible. Il y a certaines alliances secondaires, mais les deux principales dont parle la Bible, c'est de celles-là que je parle aujourd'hui. Pour aller plus loin, on va d'abord voir la signification des mots hébreux et grecs utilisés pour identifier ce que veut réellement dire ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Vous verrez que ça fait toute la différence pour vraiment saisir la réalité dont il est question. Ça va vous demander de vous concentrer pour suivre, là, mais vous allez voir que ces choses-là tombent en place et c'est tellement inspirant de voir comment Dieu a bâti sa parole et comment son plan est formidable. Ça nous amène à comprendre les Écritures de façon plus précise. Et c'est un des grands buts du sermon de M. Nathan. Dans le texte grec de la Bible, il y a deux termes différents pour le mot « nouveau ». En français, on a juste le mot « nouveau », mais en grec, ils ont deux mots différents pour dire le mot « nouveau », mais ça amène une nuance. Le premier mot grec, parfois utilisé, est « néos », que vous voyez sur vos papiers, « n-e-o-s ». En français, c'est « néo », comme dans les expressions suivantes, par exemple. « Néo-conservatisme », OK? Le conservatisme, c'est une forme de gouvernement ou de situation générale et qui a pu exister dans le passé. Et si le mouvement revient et recommence, on dit que c'est un néo-conservatisme, c'est nouveau. Comme on entend parler aujourd'hui de néo-nazis, il y a eu des nazis dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ça l'a arrêté après et maintenant il y a des gens qui reprennent la même forme de pensée et on dit que ce sont de nouveaux nazis, des néo-nazis. Okay? Et là, c'est le mot N-E-O-S, néos. Ça veut dire nouveau, mais nouveau d'une certaine manière. Nouveau en termes de temps. Nouveau en termes de temps. Ça décrit quelque chose de récent dans le temps. Quelque chose de frais, de nouvellement arrivé à l'existence. Par exemple, vous faites un bon pain chaud, là, puis ça sent bon. Là. Un bon pain chaud, c'est un pain néos. Il est nouveau. Il n'est pas vieux. Il est récent. Un gâteau, c'est exactement la même chose. Autre exemple. Un bébé, bon, même chose. On peut comprendre avec ça. Un couple attend un deuxième enfant, mettons. Ce sera leur nouveau-né, leur néos. Il va être récent, OK? Leur premier enfant, qui a un an, ne sera plus le nouveau bébé après que le dernier est arrivé, OK? Cette sorte de nouveauté, elle est dépendante du temps. C'est pour ça que sur votre formule, on dit que c'est lié au temps. Le bébé le plus récemment arrivé est le nouveau bébé, est le néos. Peut-être que l'ancien n'aimera pas ça, parce qu'il y a de la concurrence dans la maison, mais c'est comme ça. Le deuxième mot grec parfois utilisé pour signifier le mot français nouveau, c'est kainos. K-A-I-N-O-S. Il n'a pas du tout le même sens que néos. Impossible de les confondre. Impossible d'utiliser les deux mots pour décrire la même chose nouvelle. On ne peut pas les utiliser ensemble pour la même chose nouvelle. La langue grecque permet une nuance importante ici. Quand on voit en grec le mot « kainos », ça désigne une chose nouvelle dans le sens que c'est une chose qui n'a pas été utilisée. C'est une chose nouvelle. Elle n'a pas été utilisée. Dans ce cas, c'est nouveau, pas parce qu'elle vient tout juste de sortir du fourneau ou d'être créée, mais parce qu'elle n'a jamais servi. Ces nuances-là vont nous aider à comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Exemple, vous achetez une voiture Ford usagée. Ça pourrait être une autre sorte, là, je prends une voiture Ford sans viser personne, même si je les regarde et ils me sourient. Vous achetez une voiture Ford usagée parce que vous êtes capable de faire certaines réparations vous-même. Vous ne craignez pas s'il y a des problèmes. Tout à coup, il y a un problème. Le démarreur brise. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller chez le concessionnaire Ford pour avoir une pièce de qualité, une pièce neuve, OK, pour être capable de faire l'entretien, de faire la réparation vous-même. Alors, vous commandez au concessionnaire le démarreur nouveau. La pièce neuve vous parvient toute propre, bien emballée, comme au départ de l'usine où elle a été fabriquée. OK? Or, elle a été fabriquée il y a longtemps. Vous avez acheté une voiture de plusieurs années d'âge. Elle a été fabriquée il y a longtemps. Et là, vous faites venir de la compagnie un morceau original. Et les compagnies, à ma connaissance, ceux qui produisent des véhicules sont obligés de tenir en réserve les pièces de remplacement. Et c'est fabriqué d'avance, ça. Alors, c'est déjà fait. Ça a été fabriqué il y a longtemps. Elle peut même avoir été fabriquée quelques années avant que vous achetiez votre voiture Ford. Donc, elle n'est pas récente. Elle ne vient pas d'être produite. Elle n'est pas Neos. OK? Alors, voyez-vous comment le choix des mots est important. Ça nous aide à comprendre ce que la phrase dit. Mais elle est nouvelle dans un autre sens bien précis. Elle est neuve, nouvelle, parce qu'elle n'a jamais été utilisée. Elle est kainos, nouvelle, ce qui n'a aucun lien obligatoire avec le temps. Ça, je dis, c'est pas dépendant du temps. Elle a été produite il y a longtemps, mais elle n'a jamais servi. Jean 13, un bel exemple biblique de ça. Le soir de sa dernière Pâque, le Christ a dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Pourquoi est-ce que le Christ dit ici, en donnant ce commandement-là, que c'est un commandement nouveau? Ça a été mentionné dans l'Ancien Testament. Il dit, « C'est un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. » Il y a des gens qui utilisent ce passage-là en disant, « C'est un 11e commandement que Dieu a donné, et c'est celui-là qu'il faut mettre en pratique, sans s'occuper de la nomenclature des 10 autres, là, où il y a le sabbat et tout ça, voyez-vous. » Alors, c'est une erreur aussi, c'est une mauvaise compréhension. La réponse nous vient du mot grec choisi ici, par l'apôtre Jean. Il n'a pas écrit « néos ». Alors, un commandement récent, fraîchement établi. Alors, le Christ n'a pas dit « Voici, je vous donne un commandement néos », c'est-à-dire un commandement récent, nouvellement établi ou fraîchement établi. Il a écrit, l'apôtre Jean, « kainos », ce qui voulait dire qu'il s'agissait d'un commandement qui existait auparavant, mais qui n'avait jamais été utilisé par ses disciples. Ça existait, mais ça n'avait jamais été utilisé par ses disciples. Une nuance importante. Les disciples ne vivaient pas encore selon l'amour de Dieu. Ils étaient encore entièrement charnels. Je vais vous donner deux bons exemples qu'ils étaient entièrement charnels. Il y en a d'autres, mais deux bons exemples. Premier exemple, Luc 22. OK? Ça, c'est une situation où les disciples se querellent. Alors, voyez-vous, ils sont très chrétiens, ils se querellent. Et quand les gens ont des chicanes, puis sa chicane n'a plus finir, c'est parce qu'ils ne suivent pas tellement les voies de Dieu. Ils ne sont pas vraiment là. Ils ne sont pas dans l'attitude chrétienne. Alors, les disciples se querellent en convoitant le poste le plus élevé. Qui va être le meilleur? Qui va avoir la première place? Luc 22, versets 24 et 26, à 26. « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. » Ça contestait, là, les uns les autres. « Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? » Rien de moins. Hein? Comme dans les élections, comme dans les entreprises, comme dans le monde, parce que c'était des gens du monde et ils ne pratiquaient pas les lois de Dieu. Jésus leur dit, là, il leur enseigne quelque chose. « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Voici que Jésus profite de la situation pour leur donner toute une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses qu'ils n'avaient pas encore au moment où ils contestaient entre eux autres pour savoir qui aurait la première place. Deuxième exemple, ça lui ressemble. mais qui montre encore que les disciples n'avaient jamais utilisé l'amour divin. Je reviens là-dessus, parce que ça vient avec notre mot grec. Matthieu, chapitre 20. Lorsque la mère de Jacques et de Jean a demandé au Christ que ses deux garçons, ses deux fils, soient assis directement à côté du Christ dans le royaume. Rien de moins, là aussi. On voit que la mentalité n'est pas une mentalité chrétienne. On veut avoir la première place. On veut tasser les autres. Et là, regardez les autres, les 10 autres. Comment ça a réagi? Les 10 autres ont réagi de façon très révélatrice. Matthieu 20, versets 24 à 28. Les 10 autres, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Indignés, c'est en colère, très fâchés. Jésus les appela et dit, il profite encore de l'occasion pour leur enseigner la nouvelle voie de vivre qu'ils devront adopter. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon de beaucoup. Alors voyez-vous, ces disciples-là, chrétiens, entre guillemets, ils ne l'étaient pas encore, étaient prêts à se sauter à la gorge les uns des autres pour se tailler la première place. Quand on voit les choses de cette façon-là, on comprend leur humanité et le fait qu'ils n'étaient pas convertis. Et que nous, quand on vient à l'Église, on a des gros changements à faire en arrivant. On comprend des choses comme eux ont eu à comprendre et à changer. S'il y a des gens qui continuent à quereller avec tout le monde, c'est pas bon signe. Il faut que ça change. Il faut que la personne comprenne et adopte une autre attitude. Alors, il fallait qu'il change et qu'il en arrive à aimer comme le Christ. Hein, le Christ dit, je vous donne un commandement nouveau que vous avez, dans le fond, jamais mis en pratique. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire sans limite. Moi, j'ai même donné ma vie pour vous. Alors, il fallait qu'il change. Et c'est devenu manifeste quand vous regardez ce qui s'est passé à la Pentecôte de l'an 31 de notre ère. Parce que là, il est écrit dans les textes qu'à ce moment-là, ils étaient tous réunis d'un commun accord. Alors, ils commençaient à avoir une unité. Là, ils commençaient à avoir changé et ils étaient prêts pour aller plus loin. Ils avaient changé. Ils utilisaient et commençaient à pratiquer maintenant quelque chose qu'ils n'avaient jamais utilisé, qu'ils n'avaient jamais pratiqué auparavant, comme nous avant que Dieu nous appelle. Pour bien voir la différence de sens dans l'utilisation des deux mots, néos et kainos, pour signifier quelque chose de nouveau, voyons maintenant Matthieu 9, verset 17. Matthieu 9, verset 17. Ici, le Christ utilise les deux différents mots grecs, néos et kainos, l'un après l'autre, dans le même passage, pour expliquer quelque chose d'important. Et ça nous aide à voir la nuance des deux mots. Le Christ dit ceci, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, dans de vieux contenants. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Il donne un principe. Le vin nouveau ici, ce n'est pas le vin inutilisé, là. Là, je reviens à mes nuances des deux mots. Ce n'est pas du vin qui n'a pas été utilisé, qui est là depuis 4-5 ans. Ce n'est pas un vin inutilisé, c'est un vin récent, un vin nouveau, OK? Fraîchement produit, néos, que l'on met dans des outres kainos, qui n'ont pas été utilisés avant. Parce que ces outres étaient comme des sacs faits de peau de bête. Et s'ils sont utilisés à un moment donné pour le vin nouveau et que la peau est neuve, elle a une élasticité et comme le vin fermente, La peau peut absorber l'élasticité que le vin provoque et il n'y a pas de bris, ça ne se rompt pas. Mais si on prend une peau qui a déjà servi, qui a déjà été extensionnée, pour ainsi dire, par l'usage et qu'on met du vin nouveau, elle n'a plus de possibilité de s'extensionner, donc elle va se rompre et le vin va être perdu. Il fallait donc mettre du vin nouveau, récent, dans des outres jamais utilisées. Le contraire ne fonctionnait pas. Si on avait mis un vin jeune, nouveau, qui fermente dans une peau qui avait déjà été utilisée et qui, de ce fait, avait pris de l'expansion et perdu son élasticité, cette peau se serait rompue et le vin aurait été perdu. Mon fils a fait une belle expérience là-dessus. Je vois mon épouse qui sourit en me regardant. C'est qu'à un moment donné, il était en appartement. Il avait décidé de faire du vin. Alors, il a fait du beau vin, là, la bonne recette. Et il avait mis ça dans une cruche de verre. Fermé la cruche de verre comme il faut pour garder son vin. Il l'avait mis dans la salle de bain. Il a laissé fermenter les choses. Puis à un moment donné, il était dans l'appartement. Mais heureusement, il n'était pas dans la salle de bain. Paf! Le cruchon de verre a explosé et ça a rentré dans le mur des morceaux de verre et tout ça. S'il avait été proche, il aurait pu être blessé. C'est ce principe-là. Parce que le verre n'a aucune élasticité. Mais le vin, lui, fait la fermentation et crée une pression épouvantable à l'intérieur. Alors ça c'est l'expérience qu'il a vécue. Il a appris. S'il fait du vin aujourd'hui, il a changé de méthode absolument. On voit bien ici, donc, la différence de nuance entre ces deux mots grecs, servant à traduire le même mot français « nouveau ». On va revenir à ça un petit peu plus tard. Voyons un autre aspect des Écritures. On va aller plus loin. Revenons à Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Les noms mentionnés ont une grande importance, même si souvent nous ne sommes pas enclins à porter une grande attention à ça. Rappelons-nous que toute Écriture est inspirée par Dieu. Il y a un message dans tous les passages des Écritures, même si au point de départ, ça ne semble pas évident. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi c'est écrit comme ça? On va voir. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est la 14e fois, ici, dans les Écritures, où on fait ainsi référence à cette généalogie. Matthieu 1, 17, un peu plus loin, rapporte. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Dieu travaille de façon extrêmement précise. Matthieu est inspiré à présenter les choses d'une manière très constructive. On peut comprendre que Jésus-Christ soit identifié comme étant le fils de David. On peut aussi comprendre les prophéties qui concernent le Christ en tant que fils de David et celles qui se rapportent à son rôle en tant que Messie. Mais ici, je vais plus loin. Matthieu va plus loin en définissant David et le Christ par rapport à Abraham. Ça, c'est surprenant. Il définit David et le Christ par rapport à Abraham. Pourquoi? Jésus-Christ est d'abord identifié comme le fils de David et David est ensuite identifié comme le fils d'Abraham. Pourquoi définir le Christ par rapport à David et à Abraham? Abraham est un personnage très important dans le Nouveau Testament. Il est appelé l'ami de Dieu, le père des croyants. Et on aimerait ça que Dieu nous aide, et Dieu nous dise un jour, vous êtes mon ami aussi, qu'on devienne comme Abraham. Matthieu révèle aussi d'autres choses au sujet d'Abraham. Allons à Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. On voit Jean-Baptiste ici utiliser le rôle d'Abraham pour expliquer au peuple de Judée la repentance et le baptême. Mais on va y apprendre autre chose. Au verset 7 de Matthieu 3, on voit que Jean-Baptiste attire solidement l'attention des pharisiens et des sadducéens venus pour être baptisés. Il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et comme si ça n'était pas assez, il ajoute, « Et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Ça, j'ai souligné ici parce que c'est cet élément-là sur lequel je vais attirer votre attention. « Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Puis il ajoute, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Jean-Baptiste leur a expliqué ici quelque chose de capital par rapport au salut. Ces gens-là pensaient qu'il était suffisant d'être un descendant physique d'Abraham pour plaire à Dieu, que tout était joué. Okay? Ils croyaient qu'être un descendant physique d'Abraham est tout ce qui compte aux yeux de Dieu. Il leur a clairement et directement fait comprendre que ce n'est pas du tout le cas. La même chose pour quelqu'un dans l'Église. Quelqu'un ne peut pas dire « Je suis sauvé parce que je suis dans l'Église et je fais n'importe quoi ou je ne suis pas ce qui nous est enseigné ou ce que la Bible nous commande. Je suis dans l'Église, je suis sauvé. » C'est absolument pas le cas du tout. Jean-Baptiste leur a dit autre chose pour bien souligner ce qui compte le plus. Il leur a dit qu'Abraham a été reconnu comment? Par ses fruits. Il produisait quelque chose. Il agissait de telle façon. Parce que Dieu lui avait montré ses lois. Et Abraham les mettait en pratique. Et pour être des fils d'Abraham, ils devaient, eux aussi, porter du fruit. Exactement comme Abraham l'avait fait. Il est certain qu'Abraham a porté de bons fruits, des fruits qui plaisaient à Dieu. Et il est clair que s'ils voulaient eux aussi être appelés fils d'Abraham, ils devaient eux aussi porter de bons fruits, des fruits qui plaisent à Dieu. Sinon, ils seraient coupés et jetés au feu, la destruction éternelle. On peut voir ça aussi dans Matthieu 7, 20, où Jésus dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, après avoir répété que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » C'est évident que les fruits portés par quelqu'un révèlent quelque chose d'important, de majeur, sa condition spirituelle, son état spirituel. C'est pourquoi c'est tellement important de produire du fruit. Produire du fruit de repentance, de changer nos voies mauvaises, d'éliminer le mal de notre vie et de produire du fruit du Saint-Esprit de Dieu, de développer l'amour, la bonté, la patience, la générosité. Allons maintenant dans Matthieu 8, où Jésus lui-même décrit une situation qui aura lieu quand le royaume sera établi sur la terre. Et cette situation implique Abraham, Isaac et Jacob, quand le Christ sera revenu et que le royaume sera établi. Au verset 5, nous voyons qu'un centenier est venu auprès de Jésus à Capernaum pour lui demander de guérir son serviteur. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Mais l'homme lui dit, « Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as qu'à dire qu'il soit guéri. » Au verset 10 et 11, on voit que Jésus fut dans l'étonnement et qu'il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et ils seront à table avec qui? Avec Isaac, Abraham et Jacob, dans le royaume des cieux. » En voyez-vous, ce qu'il leur donne, l'image qu'il leur donne de ce qui va se passer une fois que le Christ sera revenu sur la terre. Jésus parlait bien sûr de la résurrection, la première résurrection, où ces hommes-là vont être devenus des êtres spirituels. Dans le royaume, des gens viendront et s'asseoiront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ça, ça nous fait rêver. Moi, quand je vois ça, je me plais à rêver que moi aussi, je pourrais m'asseoir à côté d'Abraham, à côté de ces hommes-là, puis leur poser des questions. Ça va être possible, le Christ le mentionne clairement. Il ne s'agit pas pour Abraham d'une résurrection à la vie physique, mais d'une résurrection à la vie spirituelle, à la vie éternelle, à l'immortalité. C'est la première résurrection qui lui permettra de devenir membre du gouvernement de Dieu avec Isaac et Jacob. Verset 12. Mais les fils du royaume, et il s'adresse ici aux Sadducéens et aux Pharisiens, mais les fils du royaume, ceux qui pensaient être déjà sauvés, mais qui n'agissaient pas en conséquence, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cet aspect de notre relation avec Abraham est très important. Dans l'Évangile de Matthieu, le Père nous révèle quelque chose qui a un lien avec ce qui est rapporté dans Genèse 18, avant la destruction de Sodome et Gomorre. Il y a un lien avec ça. Dans ce contexte-là, après avoir mangé avec eux, avant que les deux anges se dirigent vers Sodome et Gomorre, il se passe alors quelque chose d'important, au verset 17. L'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Remarquez bien ces deux mots-là. « En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » On voit ici que l'Éternel fait l'éloge d'Abraham, et il nous dit que les fils d'Abraham seront ceux qui se laissent instruire dans la voie de l'Éternel afin de pratiquer quoi? La droiture et la justice. Donc, les enfants d'Abraham pratiquent la voie de l'Éternel, ils agissent avec droiture et avec justice, selon Dieu. En hébreu, les termes « droiture » et « justice » résument tout l'esprit de la loi. Vous allez vous rappeler de ça parce que ça nous aide, parce que l'expression « droiture » et « justice », elle revient plusieurs fois dans les textes. Et ça, quand vous voyez ça, c'est que ça résume l'ensemble de l'esprit de la loi de Dieu. Le mot hébreu, « traduit par droiture, est tzedakah. Et le mot hébreu traduit par justice est mishpat. Ce sont souvent des mots utilisés ensemble d'une manière spéciale, comme je vous dis, pour décrire tout l'esprit qui se trouve derrière la loi de Dieu. Ils sont utilisés ensemble 66 fois dans les Écritures, et chaque fois, ils ont un rapport avec l'ensemble de la voix de Dieu. C'est important. On peut dire qu'ils englobent complètement l'esprit de la loi de Dieu. On sait qu'Abraham, parce qu'il a obéi à Dieu de cette façon-là, aura un poste dans le royaume de Dieu, parce qu'il a compris l'esprit de la loi que Dieu lui avait enseignée et qu'il a vécu selon l'esprit de cette loi. C'est pour ça qu'il est le père des croyants et c'est pour ça qu'il est l'ami de Dieu. Et les enfants d'Abraham sont ceux qui aiment la loi de Dieu et qui vivent selon l'esprit de cette même loi-là. Vous serez peut-être surpris d'apprendre la raison pour laquelle Matthieu 1, verset 1, mentionne Jésus-Christ, David et Abraham. Je reviens à mon explication de tantôt. C'est parce que ce critère de droiture et justice s'applique tel quel seulement à ces trois personnes parmi celles mentionnées dans les Écritures. Ces trois personnages étaient en fait dans des postes d'autorité et de direction. C'est ce qui les met dans une catégorie spéciale. Abraham a dû enseigner cette voie à ses enfants. David, en tant que roi modèle, a vécu selon cette même voie de vie et l'a appliquée dans son royaume. Et le Messie incarne cette voie de vie et va continuer de l'incarner et de l'enseigner dans le monde à venir. 2 Samuel 8, verset 15. Dans 2 Samuel 8, verset 15, il est dit exactement la même chose en parlant de David. David régna sur Israël. Comment est-ce qu'il régnait sur Israël? Ça le précise ensuite. Et il faisait droit et justice à tout le peuple. Il faisait droit et justice à tout le peuple. Voilà encore tout l'esprit de la voix de Dieu et de la loi de Dieu. Ce que nous devons apprendre maintenant pour appliquer dans le monde à venir bientôt. C'était la caractéristique principale de son règne. Et la même caractéristique s'applique à l'enseignement qu'Abraham a donné aux gens de sa maison. Exactement. Le roi Salomon, le fils de David, a été informé qu'il devait lui aussi régner de cette façon. Il l'a fait pendant un certain temps, mais il a ensuite cessé de le faire. Il s'est détourné. À part Abraham et David, seul le Christ a fait la même chose en tant que dirigeant. On le voit dans Ésaïe 9, verset 7. « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. » Même chose. Et là, il parle du monde de demain quand le Christ sera revenu. Quel genre de royaume qu'il va établir? Dès maintenant et à toujours. Alors, c'est encore la même caractéristique, par le droit et la justice. Ce sont exactement les mêmes termes, droiture et justice, qui sont utilisés dans Genèse 18, verset 19, où il est question d'Abraham. Droiture et justice constituent la caractéristique principale du Messie, le Fils de Dieu. Il l'a enseigné à Abraham. Il l'a enseigné à ses disciples. Il nous l'enseigne à nous aujourd'hui. David et Abraham, le père des croyants, en ont fait preuve aussi. Le Christ établira le gouvernement de Dieu sur la terre et règnera avec cette même droiture et cette même justice. Dans Matthieu 1, il est question de la véritable généalogie, celle qui est importante aux yeux de Dieu. Les véritables descendants d'Abraham sont ceux qui portent des fruits spirituels, comme l'ont fait Abraham, David et le Messie. Et ça n'enlève rien au Messie parce que le Messie qui était l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est lui qui a enseigné les mêmes lois à Abraham. Voyez-vous? C'est intéressant comment on présente les choses. Abraham a été reconnu pour ses fruits et par ses fruits. Et il en résulte qu'il aura un poste de dirigeant dans le royaume. C'est un personnage admirable à cause de la droiture et de la justice dont il a fait preuve. Ça fait partie de l'identité spirituelle et ça doit devenir à nous notre identité. Si vous et moi faisons preuve de droiture et de justice, ça se développe au cours de notre vie par l'aide de Dieu. Nous pouvons être identifiés comme des enfants d'Abraham, comme des enfants d'Abraham. Et bien sûr, ça signifie que nous devons continuer à porter du fruit. Maintenant, je vais plus loin. Et je vais rentrer dans les alliances un petit peu plus précisément. De quelle alliance Abraham faisait-il partie? De quelle alliance Abraham faisait-il partie? Bonne question, hein? J'arrive maintenant au thème principal de mon message. Ce n'était certainement pas de l'ancienne alliance. Ce n'était certainement pas de l'ancienne alliance, parce qu'elle n'avait pas encore été établie. Elle n'a été établie que 430 années plus tard. Sous quelle alliance étaient Noé, les fidèles serviteurs de Dieu à l'époque, les appelés, qui ont changé leur vie, Noé, Enoch et Abel, et les autres appelés qui ont marché dans les voies de Dieu, sous quelle alliance étaient-ils? Dans Jérémie 31, verset 31, la Bible mentionne la nouvelle alliance. Ce que l'apôtre Paul répète dans Hébreux 8, verset 8. Vous pouvez aller à Hébreux 8, verset 8. Paul fait référence à Jérémie 31, 31. Il dit la même chose, mais je vais là parce que on va voir quel mot Paul utilise pour parler de cette alliance ici. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec les maisons d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle pour ceux avec qui elle sera faite. Comme Jérémie a écrit en hébreu, et que cette langue n'est pas aussi nuancée que le grec, il faut voir quel mot grec, néos ou kainos, Paul a utilisé pour traduire alliance nouvelle qui est citée dans Jérémie 31. Il a utilisé kainos, qui signifie non utilisé, pas utilisé. Là, vous commencez à voir davantage comment les morceaux du casse-tête commencent à tomber ensemble. L'alliance nouvelle dont Paul parlait était donc une alliance inutilisée. Elle n'avait pas été utilisée au temps de l'Ancien Testament par la nation d'Israël, sauf par un très petit nombre de personnes qui avaient été appelées par l'Éternel séparément et non en tant que groupe. Vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que dans le grec, il existe aussi deux mots pour traduire le mot « ancien » ou « ancienne ». Le premier est « paléos », comme vous avez sur votre feuille, duquel est dérivé le mot « paléo » dans la langue française. Lorsqu'on parle d'une diète, par exemple, une diète « paléo », il s'agit d'une diète qui n'est plus utilisée depuis très longtemps. Elle est inefficace, sauf pour ceux qui en font un mode de vie. On utilise aussi le mot « paléo » au sujet de différents styles d'écriture. Il y a une sorte d'hébreu qu'on appelle l'hébreu paléo, qui n'est plus utilisé. C'est une forme d'hébreu qui a cessé d'être utilisée au temps d'Esdras. Il y a différentes formes d'hébreu. L'hébreu moderne, l'hébreu biblique et l'hébreu paléo, ancien, sous forme de pattes de mouche qui sont à peu près pas lisibles. Là. C'est difficile à lire. Il est justement ce type d'hébreu qualifié de paléo parce qu'il n'est plus utilisé. OK? Il n'est plus utilisé. Dans Hébreux 1, verset 8, Paul parle de Jésus-Christ. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, c'est-à-dire de droiture. » Ça rejoint ce qu'on a vu tantôt. « Cette droiture est la même que celle qu'exercera Abraham dans le royaume de Dieu. » Au verset 9, il est dit, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Il est donc question d'aimer la droiture, et on peut ajouter justice. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Verset 10 et encore, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, et ils périront, mais tu subsistes. » Pourquoi je dis ça? Pourquoi je me réfère là? La terre et les cieux vont devenir quoi? Paléo. Le mot utilisé, c'est paléo. Ils vont devenir échus, ils vont devenir périmés. En fait, ils vont cesser d'exister, comme ils sont actuellement. Ils ont une existence physique limitée, paléo. C'est pour cette raison aussi que Dieu créera, plus tard, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme on voit dans Apocalypse 21. Au verset 11, je continue dans le passage que j'étais, « Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point. » Paul montre ici la corruptibilité de certaines choses, celles qui ne durent pas toujours, celles qui sont paléo. L'autre mot grec utilisé pour dire ancien, vous allez le reconnaître facilement, c'est archaios. A-R-C-H-A-I-O-S, archaios. Et vous allez peut-être avoir à l'esprit tout de suite un mot archaïque qui vient de ça. De nos jours, nous n'utilisons plus ce mot correctement. Il y a des mots dont on a perdu le sens original et qu'on utilise dans le langage courant de d'autres façons. Mais je vais vous donner le sens original de ce mot-là ici. C'est vrai que le mot archaïque veut dire ancien ou vieux dans le langage courant actuel, mais il a aussi le sens original de fondamental, quelque chose de base, quelque chose de fondamental. Ça désigne quelque chose qui est une base, un fondement. Exemple, le mariage. Le mariage est archaïque. Si on prend le sens réel, original du mot archaïque, qui est fondamental parce que le mariage est l'élément fondamental d'une société qui fonctionne. OK? C'est l'élément de base. Il sert de fondement à la société humaine. Un autre exemple, la Bible. La Bible est vieille, elle est ancienne, non seulement parce qu'elle existe depuis longtemps, mais parce qu'elle est fondamentale. Elle sert de fondement à une société heureuse et qui fonctionne, comme ça va être le cas dans le monde de demain quand Christ va être revenu. La Bible est archaïque, et c'est formidable qu'elle le soit, parce que c'est notre fondement. Quand il est question de l'ancienne alliance, Paul utilise le mot « palaios », parce que cette alliance avait une durée de vie limitée. Elle ne devait pas durer toujours. Dans Hébreux 8, verset 13, Paul mentionne la nouvelle alliance en disant « une alliance nouvelle, kainos », et il a déclaré « ancienne, palaios, la première ». Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. OK? Elle n'a plus son utilité. Voyons maintenant ce qui est écrit dans Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre. On parle ici d'une alliance éternelle. Remarquez que Paul parle ici d'éternité, d'alliance éternelle, c'est-à-dire qui n'est pas limitée dans le temps. En fait, dans ce verset, Paul paraphrase Ézéchiel 37, verset 26. « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, j'y placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. » Il s'agit bien d'une alliance éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui et qui va disparaître demain. Elle dure éternellement. Je pose de nouveau la question. Sur quelle alliance Abraham s'est-il engagé à vivre selon Dieu? Dieu le dit dans Genèse 17, verset 7, en s'adressant à Abraham. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Voyez-vous, Dieu a dit à Abraham, « J'établis avec toi une alliance éternelle. » Comment se fait-il que dans Genèse, au temps d'Abraham, il y avait déjà une alliance éternelle? Dieu ne multiplie pas les alliances éternelles. Il parle d'une continuité plutôt. Il y a une seule alliance éternelle, celle qui a été offerte à Abraham, Noé, Moïse et les autres. Il y a une seule alliance éternelle, celle offerte à Abraham, celle dont Paul nous parle concernant le petit troupeau d'aujourd'hui, et celle promise à Israël et aux nations dans le monde de demain, quand elles seront appelées par Dieu. Abraham était un pionnier de l'alliance, de cette alliance éternelle, tout comme nous le sommes aujourd'hui, si, en tant qu'appelés, nous pratiquons la droiture et la justice. Les commentateurs de la Bible parlent beaucoup de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ils tentent de définir la nouvelle par rapport à l'ancienne et se demandent ce qu'ils peuvent garder de l'ancienne dans la nouvelle et ce qu'ils peuvent mettre de côté. Mais ils font fausse route. C'est dans le désordre de voir les choses de cette façon-là. Ils ne comprennent pas que ce que nous appelons l'ancienne alliance avec la nation d'Israël n'était que temporaire et qu'elle a été en réalité précédée par l'alliance éternelle et que nous appelons la nouvelle alliance, qui n'a pas été pratiquée par la nation d'Israël dans l'Ancien Testament. Ils ne l'ont pas utilisée à l'époque, mais elle existait déjà avant que l'ancienne alliance existe. Voyez-vous, c'est intéressant de mettre les choses dans l'ordre, c'est puissant. En fait, l'Éternel a d'abord offert son alliance éternelle à quelques personnes dans les temps anciens. Ensuite, il a établi l'alliance ancienne avec Israël au mont Sinaï, qui était une alliance temporaire, limitée dans le temps. Ça a duré 1500 ans environ. Depuis l'an 31 de notre ère, après le sacrifice de son fils, Dieu a offert et offre à nouveau l'alliance éternelle à ceux qui l'appellent, le petit troupeau qui forme actuellement son Église. C'est la nouvelle alliance, ou plus précisément, l'alliance éternelle dont nous sommes les pionniers, comme Abraham l'a été. Ça se tient, là. Il y a un lien. Rétablissons maintenant les faits et allons plus loin. Ce qui était dans l'ancienne alliance avec Israël avait une correspondance dans l'alliance éternelle qui avait été établie avant l'ancienne alliance. Ça bouleverse complètement la théologie du monde. On ne peut pas choisir ce que l'on veut dans l'ancienne alliance pour la mettre dans la nouvelle. Ce que l'on voit dans l'ancienne alliance se trouvait déjà dans l'alliance éternelle. Là, je vais aller plus loin. Vous allez être surpris aussi, mais vous allez voir comment Dieu est puissant et comment ça se tient. Je vais vous donner des preuves. Pourquoi est-ce qu'il y avait un sacerdoce dans l'ancienne alliance avec Israël? Parce qu'il y avait déjà un sacerdoce dans l'alliance éternelle. Un sacerdoce éternel, celui de Melchisédek. Ça avait déjà été établi avant la création. C'est pourquoi il y a eu un sacerdoce dans l'ancienne alliance, celui d'Aaron et de ses fils, qui était temporaire. Ça a duré un temps. OK? Mais Melchisédek a un sacerdoce éternel. Pourquoi la nation d'Israël, autre question, devait-elle avoir un tabernacle? Parce que dans l'Alliance éternelle, il y avait un tabernacle au trône de Dieu. Voyez-vous le lien? C'est important, ça reflétait ce qui était établi par Dieu auparavant. C'est important de le voir comme ça. Pourquoi les sacrifices sous l'ancienne alliance? Parce qu'il y avait un autel pour les sacrifices dans le tabernacle de Dieu au ciel. Lisez Hébreux 8 et 9, et vous allez voir que l'agneau parfait a été immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8 déclare, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » OK? Les gens qui sont morts sous l'ancienne alliance seront ramenés à la vie physique. La deuxième résurrection. Parce qu'ils n'ont pas été scellés du Saint-Esprit. Par contre, ceux qui ont été baptisés et scellés du Saint-Esprit sous la nouvelle alliance, qui se sont détournés de leur engagement et qui meurent sous la nouvelle alliance éternelle, tombent sous le châtiment de cette alliance éternelle, c'est-à-dire sous la mort éternelle. Ça va ensemble. Et là, il n'y a plus d'espoir. Ils seront de la troisième résurrection et subiront la seconde mort, c'est-à-dire une destruction éternelle, comme s'il n'avait jamais existé. Il y avait une peine de mort physique, temporaire, dans l'ancienne alliance avec les Israélites, parce qu'il y a une peine de mort réservée à ceux qui rejettent l'alliance éternelle. Tout ça se tient. Quand on met ensemble ces morceaux du casse-tête, c'est vraiment fascinant de voir le plan de Dieu. Paul l'explique très bien, d'ailleurs, dans Hébreux 10, versets 26 à 29. Hébreux 10, versets 26 à 29. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Ça implique de s'être repenti, d'avoir été baptisé, d'avoir reçu le Saint-Esprit. Si on abandonne, si on se détourne, si on ne fait pas ce qu'il y a à faire pour vraiment se préparer, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. » La mort physique à l'époque sous l'ancienne alliance, c'est ce qui est mentionné ici. « De quel pire châtiment, et là il s'adresse à nous et à ceux qui ont signé le contrat dans le sang du Christ pour faire partie de la nouvelle alliance. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance éternelle par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Voyez-vous comment tout devient clair. Ainsi, Tout ce qui se trouvait dans l'ancienne alliance y était, parce que le Père et la parole avaient déjà décidé du contenu de l'alliance éternelle. Où est-ce que la dîme est mentionnée pour la première fois? Je donne d'autres exemples pour qu'on voit que tout ça se tient. Où est-ce que la dîme a été mentionnée pour la première fois? Dans Genèse 14, quand il est question de Melchisédek et d'Abraham. Vous vous rappelez comment les choses se sont passées? La dîme était déjà établie depuis longtemps, bien avant l'établissement de l'ancienne alliance. À ce moment, on remonte loin dans le temps, là. Et on voit qu'Abraham a payé la dîme à Melchisédek, okay, qui était le Christ à ce moment-là sur la terre pour une période de temps. Elle faisait partie, la dîme, et elle était acceptée de ceux qui étaient entrés en relation avec leur Dieu. On voit d'autres serviteurs, en remontant loin dans le temps, qui ont mis en pratique la loi de la dîme. Jacob payait la dîme. Il connaissait que la dîme existait et il la versait à Dieu. Que dire des viandes pures et impures? On va aller plus loin. Ça existait bien avant l'établissement de l'ancienne alliance. Comme M. Weston l'a expliqué dans un sermon sur les 10 commandements qu'il a donné au début de l'année. Vous pourrez le regarder, ceux qui comprennent l'anglais. Même chose pour le sabbat. La Bible le mentionne pour la première fois dans Genèse 2, dès le début. Le sabbat a fait partie de l'ancienne alliance avec Israël parce qu'il faisait déjà partie de l'alliance éternelle. Dans Genèse 2, l'ancienne alliance n'avait pas été établie. Dans Genèse 2, c'est au moment de la création. Qu'en est-il des jours saints, des jours de fête de Dieu? On pourrait dire que le sabbat est le premier jour saint, que les fêtes annuelles, ce sont des sabbats annuels de Dieu. Ça va ensemble aussi, mais je vais aller plus loin. Dans Genèse 1, 14, Dieu dit « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques ou les saisons, les jours et les années. » Bon, quand on lit ça en français, ça ne dit pas beaucoup. Moi, je vais le noter parce que là, j'ai trouvé avec le sermon de M. Nathan ce que ça voulait dire. Le mot « époque » ou « saison » mentionné dans ce verset vient du même terme hébreu qu'on retrouve dans Lévitique 23, verset 2. Ça veut dire les assemblées de l'Éternel. Ça veut dire les fêtes divines. Et ça se comprend. On calcule les fêtes comment? Avec les astres, avec les lunes. Vous savez comment les choses sont calculées dans le calendrier divin. Alors, c'est pour ça que Dieu dit ici... qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, c'est-à-dire les assemblées de l'Éternel, les fêtes divines. Il est donc question des fêtes de l'Éternel quand a eu lieu la recréation de la terre par l'Éternel, comme le rapporte Genèse 1. On remonte très, très loin dans le temps. Au chapitre 19 de Genèse, quand les anges s'apprêtaient à détruire Sodome et Gomorre, qu'est-ce que Lot leur a servi avec le repas qu'il leur a donné? Des pains sans levain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était la période de la fête des pains sans levain, autour de la Pâque. C'était Lot célébrait cette fête-là, il la connaissait, avant, longtemps avant, l'établissement de l'ancienne alliance. Nous savons ce que c'est, on en mange à la période de la fête des pains sans levain chaque printemps. Nous voyons donc dans la Genèse ces indices qui font clairement et directement allusion aux fêtes divines et au jour saint de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que la Nouvelle Alliance? Très peu de gens, à part les membres de l'Église de Dieu, savent ce que c'est vraiment. Les gens, en général, pensent que cette alliance leur donne la liberté de faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, sans tenir compte des directives données par Dieu, par notre Père. En réalité, tout ce que l'on trouve dans l'ancienne alliance il est seulement parce que le Père et la parole avaient déjà établi ces éléments dans l'alliance éternelle qu'ils avaient contractée avec Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Abel et Enoch. C'était déjà là, c'était déjà inclus. Il convient mieux de l'appeler, dans le fond, la nouvelle alliance, l'alliance éternelle, plutôt que nouvelle alliance. On va faire la nuance plus maintenant qu'on a eu ce sermon-là. On va parler de Nouvelle Alliance pareil, parce que c'était dans le langage courant, mais vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire plus précisément. Quand on parle de Nouvelle Alliance, c'est l'Alliance éternelle, qui n'a pas été utilisée dans le temps des Israélites et qui a recommencé à être utilisée avec la fondation de l'Église du Nouveau Testament en l'an 31. C'est une alliance spirituelle, une alliance qui nous permet d'intérioriser la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit devenir comme Dieu, qu'on doit devenir comme le Christ, que la Bible nous dit qu'on doit revêtir le Christ, penser comme lui, agir comme lui de plus en plus. Et c'est ça, intérioriser la loi de justice et de droiture et de devenir comme le Christ. Une alliance spirituelle, une alliance qui nous permet d'intérioriser la loi de Dieu et d'observer la voie de l'Éternel comme il avait commandé à Abraham de le faire dans Genèse 18-19. Gardons la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. C'est ça, faire partie de l'alliance éternelle. Et ceux d'entre vous qui êtes baptisés, vous faites déjà partie de l'alliance éternelle. La même alliance qu'Abraham a été membre, alliance éternelle, et vous êtes sous cette nouvelle alliance qui est en fait l'alliance éternelle. La Bible présente Abraham comme notre père dans la foi, mais seulement si nous produisons du fruit par l'ADN spirituel qui nous vient de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. De nous autres mêmes, on n'est pas capable. C'est pour ça qu'il faut être proche de Dieu, lui parler chaque jour, l'écouter chaque jour en étudiant sa Bible, jeûner le plus souvent possible et lui demander de nous transformer, de nous montrer les choses qu'on a changées pour devenir vraiment comme lui et tenir à cette alliance sacrée à laquelle nous avons adhéré. En conclusion, qu'est-ce que la nouvelle alliance? C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ne le croient la plupart des chrétiens et même les grands théologiens du monde. C'est quelque chose auquel vous et moi, nous avons le privilège d'avoir part afin de régner bientôt avec Jésus-Christ. Ancienne ou nouvelle alliance? Laquelle vint en premier? C'est celle qu'on appelle régulièrement la nouvelle et qui est en fait l'alliance éternelle, établie dès le début par Dieu, qui n'a pas été utilisée par les Israélites en tant que nation et selon laquelle nous devons vivre pour nous assurer d'aller vers la vie éternelle.